On rejoint notre chroniqueur Philippe Ducharme. Philippe, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
Ah, bonjour, Lisanne. Ben, écoute, j'ai des nouvelles intéressantes, j'espère bien, du moins. Je vais commencer avec la première. Si tu veux bien, on va parler de troubles neurologiques fonctionnels. Alors, on va entamer comme suit. On connaît l'Alzheimer et le Parkinson. On le sait, ce sont des maladies qui sont reliées au cerveau, qui sont aussi le résultat de dommages qui sont faits au cerveau. Et puis ça entraîne un dysfonctionnement du cerveau. Dans ce cas-ci, lorsqu'on parle de troubles neurologiques fonctionnels, on parle bien entendu d'un dérèglement du fonctionnement du cerveau, mais la différence ici, c'est qu'il n'y a pas de dommages qu'on observe dans la structure du cerveau. C'est un dérèglement qui va embrouiller en quelque sorte la communication entre le corps et l'esprit. Et ça, ça se manifeste de différentes façons. Hein. Ça peut être, par exemple, par une personne qui va avoir une vision floue. Ça peut être des étourdissements, vertiges. Ça peut être des convulsions, mais qui ne sont pas épileptiques. On peut parler aussi d'engourdissement, de nausées, de perte de conscience. Fait qu'on voit que c'est quand même assez varié. Et ce sont tous de véritables symptômes là, que la personne ressent. Mais toujours en disant qu'il n'y a pas de lésion ou de maladie neurologique qui est détectée avec les examens médicaux qu'on peut faire de nos jours. Alors, ça, c'est comme ça que ça se présente, le trouble neurologique fonctionnel. Et il n'y a pas si longtemps, on considérait ce trouble-là comme un problème psychique, un problème mental, finalement, qui pouvait être en lien avec un certain conflit intérieur non résolu ou alors un certain traumatisme. Et on parlait donc d'un trouble de conversion. Mais là, depuis à peu près une quinzaine d'années, là, la recherche a avancé en neurosciences. Et là, on commence à comprendre un peu mieux ce trouble-là. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, on considère que ce trouble-là, ça repose plutôt sur un modèle qu'on dit le modèle du cerveau prédictif. On appelle ça aussi, ce modèle-là, le modèle bayésien.
C'est voilà. Quoi ce modèle-là, Philippe, pour ceux comme moi qui n'y connaissent absolument rien?
Effectivement, je vais en parler un peu. Donc, que ça veut dire le modèle du cerveau prédictif? Là, ben, c'est que le cerveau, dans le fond, il fonctionne un peu comme une machine à faire des prédictions, un peu comme un genre d'estimateur qui fait des calculs statistiques, mettons. Notre cerveau, dans le fond, il va anticiper des signaux sensoriels de notre environnement, puis il va tenir compte de ses perceptions et de ses attentes par rapport à ça. Autrement dit, là, notre cerveau, là, il ne fait pas juste s'asseoir en attendant l'information, puis ensuite en traitant l'information pour générer des actions. Non, le cerveau, là, il cherche à faire des prédictions à partir de ce qu'il voit dans l'environnement, à partir des connaissances qu'il a et de nos croyances.
Et en quoi ce modèle-là, Philippe, va intervenir dans ce que tu nous disais par rapport aux troubles neurologiques fonctionnels?
Ben effectivement, là, je vais faire le lien ici. C'est-à-dire que ce modèle-là du cerveau prédictif, là, ben, c'est à la base d'une approche que préconise la clinique des troubles neurologiques fonctionnels au CHUM. C'est une première, d'ailleurs, au Québec. C'est une clinique, d'abord, qui regroupe plusieurs spécialistes de différents domaines. Ça peut être la neurologie, la psychiatrie, avec des gens qui travaillent en ergothérapie ou même en physiothérapie. Puis l'objectif, là, c'est pas de faire disparaître en soi les symptômes des gens qui sont atteints du trouble neurologique fonctionnel. Okay. Non, c'est plutôt de rétablir les fonctions qui sont atteintes par la maladie. Ça, c'est comme si on voulait, dans le fond, redonner au cerveau le bon mode d'emploi, la bonne manière de fonctionner. Et comment on fait ça? Ben, ça va être avec une diversité d'interventions, comme par exemple certains exercices pour travailler l'équilibre. On peut faire ça sur un demi-ballon ou on peut marcher sur une poutre. On peut le faire avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. Mais il y a d'autres approches aussi qui vont préconiser, par exemple, l'hypnose ou ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, globalement, là, c'est une approche qui n'est pas nécessairement médicale comme on l'entend habituellement, mais c'est une approche qui va vraiment favoriser une reprogrammation du cerveau, des automatismes du cerveau. Ça aide les patients à mieux contrôler leurs symptômes. De cette manière-là, ben, les patients ils comprennent aussi un peu mieux leur problématique, la maladie. Puis dans bien des cas, là, dans près de 70% des cas, ces personnes-là vont retrouver leurs capacités qu'elles avaient auparavant.
Donc, c'est un modèle qui est novateur dans sa façon d'approcher la maladie de façon moins médicale, moins clinique.
Absolument. C'est ça qui est vraiment fantastique, c'est qu'on a ici une approche qui est différente, une approche novatrice, et ça va même être, ça va donner lieu à un cours qui va s'offrir aux étudiants en médecine dès cet hiver, un cours pour leur permettre de mieux comprendre et mieux aborder ce trouble-là. Et ça, c'est justement, c'est une des premières, enfin, c'est une première au Québec, et c'est une clinique qui va certainement inspirer d'autres cliniques à travers le monde qui vont s'intéresser à cette problématique-là.
Oui, c'est une belle avancée. Aussi au niveau du deuxième sujet, donc tu nous parles de molécules.
Oui, là, on va rentrer dans quelque chose qui est un peu plus proche de mes connaissances en chimie, biochimie. On va parler du sida, en fait. C'est notre sujet numéro 2. Le sida, ce qu'on appelle le syndrome d'immunodéficience acquise. Bon, on le sait, hein, c'est une maladie qui est causée par un virus qu'on appelle le virus VIH pour immunodéficience humaine. C'est un virus qui va essentiellement entraîner la destruction de notre système immunitaire.
Oui.
Et c'est pas anodin. Hein. Il y a, juste en 2024, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 41 millions de personnes qui vivent avec le virus du sida. Donc, c'est pas mince. Là, comme
c'est quand même beaucoup là, pour 2026. Là.
Absolument, absolument. Il existe des traitements pour tenter de contrôler la maladie. Hein. On entend des fois la trithérapie, là,
oui.
les traitements antirétroviraux. Ça peut ralentir, atténuer le virus, mais actuellement, aujourd'hui, il n'y a pas de médicament pour véritablement éradiquer, là, se débarrasser comme tel de la maladie. Là. Quand on l'a, ben on l'a. C'est comme ça.
Oui, on l'a pour toute la vie. Il n'y a pas moyen de guérir.
Oui, sauf de rares cas d'exception. Là. On en reparlera peut-être une autre fois, là, mais généralement, on n'en guérit pas. C'est ça, exact. Ouais.
Et de quelle manière donc le virus du VIH va affecter le système immunitaire?
Bon, parfait. Fait que là, je vous amène dans quelque chose d'un peu plus microscopique, OK? On va parler au niveau moléculaire. Donc, le VIH, là, le virus, il va infecter un type de globule blanc spécifique qu'on appelle les lymphocytes T, mais des lymphocytes T qui vont exprimer à leur surface une petite protéine qu'on appelle CD4. Ces cellules-là, les lymphocytes T, là, ils vont s'occuper d'orchestrer la réponse du système immunitaire, la réponse de défense envers le virus. Et la protéine CD4, là, c'est à la surface du lymphocyte. Ça, là, ça agit un peu comme une serrure de porte.
Oui.
Et ça, le virus, il a pas mal compris ça. Il s'en sert d'ailleurs comme stratégie pour attaquer notre système. Pourquoi? Parce que le virus, lui, là, il y a une clé qui lui permet de débarrer cette serrure-là, en quelque sorte. Et quand le virus se fixe, colle à un lymphocyte, avec la clé qui rentre dans la serrure, il peut infecter, rentrer dans la cellule, le lymphocyte, il va se multiplier, il va éventuellement tuer le lymphocyte. Puis là, c'est comme ça que petit à petit, le système immunitaire s'affaiblit. Mais là, quand on se dit ça, on peut se dire, dans le fond, il y a probablement des chercheurs là, qui s'intéressent à des façons de cibler cette serrure-là, le CD4. Y a-t-il moyen de faire quelque chose?
Mais j'imagine qu'il y a eu des découvertes là, récemment par rapport à cette molécule-là de CD4, non?
Absolument. C'est là où on vient justement à qu'est-ce qui est intéressant, puis c'est ça que je vais apporter aujourd'hui. Alors, des chercheurs ici au Québec, au Centre de recherche du CHUM, ce sont Jonathan Richard et André Finzi, mais aussi avec d'autres collaborateurs, d'autres chercheurs américains, ils ont créé, on appelle ça un mimétique moléculaire du CD4. Ça veut dire, en gros, là, c'est comme si on avait fabriqué la serrure, mais d'une façon artificielle, et qui ressemble beaucoup au CD4, mais c'est pas la même chose, mais ça y ressemble pas mal. En tout cas, ça lui ressemble assez pour que le virus se trompe et qu'il considère ça comme le vrai CD4. Lui, il voit ça de la même manière. Et ça, nous, qu'est-ce que cette serrure-là artificielle peut faire? C'est que quand le virus le rencontre, à la surface du lymphocyte, il réagit, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps spécifiques. On va les appeler les anti-CoRB. Je sais que c'est des noms un peu compliqués, là, mais anti-CoRB, premièrement, le virus va déclencher il va y avoir un déclenchement d'une réponse pour, grâce à ces anticorps-là, puis ça va éventuellement venir éliminer ou tenter d'éliminer la cellule qui est infectée. Okay? Mais la serrure artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet, dans le fond, d'ouvrir un peu mieux l'enveloppe du virus. Hein? Le virus, c'est quelque chose qui est dans une enveloppe, mais cette serrure-là artificielle, elle fait en sorte que le virus s'ouvre encore mieux, un peu plus. Et ça permet aux anticorps CORB, là, ça leur permet d'attaquer bien mieux le virus de cette façon-là. Puis ça veut dire qu'on va agir plus rapidement, plus efficacement pour éliminer le lymphocyte qui est infecté.
Il fallait juste y penser, finalement.
Ah, il fallait y penser, mais il fallait mettre beaucoup de travail pour faire ça. Dans le fond, là, jusqu'à présent, là, les anticorps CORB, là, ils n'étaient pas très bons pour fonctionner seulement avec un récepteur artificiel. Ça leur prenait d'autres anticorps pour agir. Okay? Mais ce qui est nouveau ici, puis c'est ça qui est vraiment l'aspect très novateur de leur étude, c'est qu'avec cette serrure-là artificielle, ben, les anticorps anti-CoRB, là, eux autres, là, ils sont capables d'agir sans l'aide de personne d'autre. Ils n'ont pas besoin d'autres anticorps supplémentaires pour être capables d'entrer en action.
Ils sont super autonomes, finalement.
Ah oui, ils sont pas mal plus autonomes et plus efficaces. Effectivement, c'est très bien dit.
Est-ce que ce même étiquet-là a fait ses preuves à date? J'imagine qu'on l'a testé sur des...
Bien sûr. Ben là, c'est ça. Là, je parle de la mécanique, comment ça marche. Ouais, mais là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça donne quoi au final? Ben c'est ça. Cette serrure-là artificielle, encore une fois, elle a démontré qu'elle était efficace quand on l'a testée sur des échantillons de plasma de personnes qui étaient atteintes du VIH. Mais encore mieux, les chercheurs ont aussi testé ça, cette serrure-là artificielle, chez des souris qui ont été atteintes du VIH et dont leur système immunitaire il reproduit pas mal celui de l'humain. Puis quand on a arrêté de donner aux souris la trithérapie antirétrovirale, donc le médicament qu'on peut utiliser de nos jours, ben le virus il n'est pas réapparu si vite que ça. Ça a pris pas mal plus de temps avant qu'il réapparaisse. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nouvelle serrure-là artificielle a fait en sorte que la taille et le nombre des réservoirs, le virus, là, il se cache dans des réservoirs dans le système. Ben, ce nombre et cette taille-là de réservoirs a beaucoup diminué grâce à cette... grâce à la serrure artificielle.
Oui.
Bon, voyons. Exactement. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. On a déjà des résultats qui nous montrent que ça peut donner quelque chose de le fun. C'est pour l'instant au stade clinique. Hein. On n'est pas rendu encore à mettre ça comme sous forme d'un traitement, mais on comprend vite ici que ça nous offre une autre opportunité pour essayer de lutter contre le virus, puis surtout essayer d'attaquer les réservoirs du virus, là, tenter de le contraindre le plus possible. Voilà.
Oui, et c'est prometteur. Évidemment, cette recherche-là donc a été publiée, ce qui fait que d'autres chercheurs vont s'y intéresser, puis tout le monde va réfléchir, puis finalement on va trouver des solutions qui pourraient là, au final guérir le VIH ou du moins vraiment être capable de diminuer là, ses effets sur la vie de tous les jours. Là.
Ben oui, c'est exactement ça, exactement.
Et parle-nous, en finissant, de dispositifs pour améliorer la marche, la démarche, des personnes vieillissantes qui souffrent du Parkinson.
Exactement. J'aime ça apporter un petit quelque chose, là, un petit truc là, en lien avec des gadgets ou des dispositifs. Là, j'en ai un ici à vous présenter qui va effectivement avoir un rôle pour améliorer la démarche, la façon de marcher, pour les personnes vieillissantes, mais ça peut être intéressant pour les personnes qui souffrent de Parkinson aussi. C'est ça qui est le fun à retenir. Donc, marcher, c'est quoi? Ça, on le sait. Hein? On marche, on s'en sert pour se déplacer.
Oui.
Pas mal tout le monde fait ça. On apprend ça vite dans notre vie. L'idée, c'est de déposer notre pied. On dépose le talon en premier. On fait rouler le pied vers l'avant. Et puis là, on alterne d'une jambe à l'autre. Bref, là, je suis en train de décrire quelque chose qui est très... On le sait tout, c'est ça, marcher. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'en vieillissant, notre démarche peut avoir tendance à changer. Puis il y a parfois des gens qui ont des troubles neurologiques qui, justement aussi, vont avoir une démarche qui va va changer, mais pas pour le mieux. En fait, ça va devenir peut-être même plus dangereuse. Puis des fois, les gens s'en rendent même pas compte. Ils se disent, oh, tout est beau, mais c'est pas nécessairement certain. L'idée, c'est... Ah, puis une chose qui est le fun à savoir, j'ai été étonné d'apprendre ça, mais à partir de l'âge de 60 ans, en général, notre démarche change. Elle se détériore. Fait que regarde, on peut tous être concernés de près ou de loin par cette nouvelle-là.
C'est le cas aussi des personnes qui ont des handicaps et ça devient qu'il y a la démarche, on est moins fort, on a moins d'équilibre, donc on est plus à risque de chute et de problèmes autres par rapport à ça.
Exactement. Donc, il y a une personne, Nancy Mao. Elle est présidente et fondatrice d'une entreprise, l'entreprise physio-biométrique, mais c'est aussi une professeure à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie à l'Université McGill, à la faculté de médecine. Et elle a conçu un dispositif qui s'appelle le Heels to Toe, en anglais. Mais, mettons, ce qu'on va dire de ça, c'est que c'est un petit appareil de forme rectangulaire qu'on vient accrocher sur le côté, sur le bord du soulier. Et ce petit appareil-là va permettre de nous renseigner sur notre qualité de démarche. Est-ce qu'on marche bien ou on ne marche pas très bien? Je vais mentionner que c'est un dispositif qui a été développé aussi avec d'autres spécialistes, des ingénieurs biomédicaux à l'Université de McGill également. Et revenons au dispositif. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans le fond? Quand tu marches comme il faut, là, il fait un bip. C'est ça qu'il fait. Fait que nous, quand la personne marche, quand le petit dispositif fait bip, ça nous indique qu'on fait bien les choses, qu'on marche bien. Donc, c'est comme une manière d'entraîner notre cerveau à bien faire la démarche de marcher.
Oui.
On peut le porter 5 à 6 minutes par jour à l'intérieur, et ça peut être suffisant pour entraîner notre cerveau donc à faire les bons gestes, à bien faire le mouvement de la marche.
Donc, on veut vraiment que le cerveau réapprenne à bien marcher en utilisant un système, entre guillemets, de récompense.
Oui, c'est ça. Exactement. Du moins, si on n'avait pas ça, comment on peut vraiment savoir si on le fait bien ou pas, à part si un spécialiste nous regarde et est capable de faire l'analyse? Ça voit ça comme un outil autonome. À la maison, on peut rééduquer notre cerveau à bien marcher. Et en plus, ce petit dispositif-là va collecter des données. Puis ça va lui permettre, si on le branche à l'ordinateur, là, on pourrait même avoir une estimation du risque de chute. Hein. Il peut nous dire là, jusqu'à quel point notre démarche n'est pas bonne.
C'est
à risque. Puis elle peut même amener à des propositions, des recommandations, des suggestions d'exercices pour justement corriger nos petits défauts dans notre démarche. C'est quand même quelque chose, hein? C'est pas rien.
C'est quand même intéressant parce que j'imagine que quand tu commences à perdre ta démarche ou à changer de démarche, tu t'en rends pas compte.
Hein? Exactement. C'est ça. Le point de départ, c'est ça, c'est qu'on s'en rend pas nécessairement compte, puis pire encore, on pense que tout est beau, alors qu'on est devant un certain risque, on n'est même pas capable de l'évaluer comme tel. J'ai mentionné Parkinson, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une étude pilote qui a été faite et qui a démontré que ce dispositif-là permettait d'améliorer la démarche de ces personnes-là. Fait que tu vois, ce petit côté, garde, ça peut aider justement les gens avec certaines problématiques de santé. On s'entend que ça peut aider pas mal tout le monde, mais là, le petit côté, là, à quoi ça peut apporter pour des gens qui, justement ici, sont atteints de Parkinson. Alors, c'est un dispositif qu'on peut même se procurer en ligne là, en visitant le site web de l'entreprise physio-biométrique. Voilà, fait que c'est même accessible. On peut se le procurer puis le mettre dans notre quotidien.
C'est quand même un gadget qui est amusant, mais qui va apporter à long terme de l'aide à des gens qui en ont besoin. Donc, on aime ça.
Voilà, exactement.
Philippe, merci d'avoir été avec nous encore une fois.
Ça me fait bien plaisir, Elisa.
On se retrouve dans les prochaines semaines. Bonne journée.
Avec plaisir.